Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. Je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Je vous propose aujourd'hui un monologue de ma part avec l'évocation historique de l'hôpital Ruffy, le premier hôpital Hôtel Dieu de Nîmes. Depuis longtemps, je m'intéresse à l'hôpital Ruffy. Il se trouve qu'un siècle avant l'année de ma thèse, qui portait sur l'hypnose, un interne de l'hôpital Ruffy avait soutenu la sienne sur le même sujet, l'hypnose. Il s'agissait du docteur Léon Bess. Intrigué par l'ambiance de cet ancien hôpital, je me suis rapproché du docteur Jean Lauret pour en savoir un peu plus, car il avait été interne lui aussi dans cet hôpital. Je connaissais Jean Lauret car un jeune médecin connaît le plus souvent les plus anciens et nous avions partagé l'ambiance chaleureuse des semaines organisées par l'école antique de Nîmes au début juillet. J'avais apprécié son érudition et sa philosophie de vie. Après avoir pris rendez-vous, le docteur Jean Lauret m'a reçu aux 4 rues Montjardin à Nîmes où il habitait et où il avait eu son cabinet. Vu mon intérêt pour sa pratique et l'époque de sa pratique, il m'avait confié une de ses expériences les plus marquantes pour lui au cours de sa carrière. Il m'avait raconté qu'il s'était occupé d'une dame et l'avait opérée, il était urologue, pour un problème rénal. Explorant le champ opératoire, il avait constaté un envahissement infectieux, inopérable, et avait donc dû, sans rien faire, refermer, comme on dit en chirurgie. Culpabilisé et inquiet par la situation, il était au courant des premiers essais prometteurs d'une nouvelle classe thérapeutique, les antibiotiques. Se déplaçant en personne à Montpellier, il revint à Nîmes avec un traitement pour sa patiente qui lui administra. Le traitement achevé et avec un peu de recul, il la réopéra et constatait avec émerveillement sa guérison. En me racontant cette histoire qui avait marqué sa carrière, il était très ému et j'ai ressenti à ce moment un maître qui se confie à un élève en lui démontrant le merveilleux de notre métier, de notre engagement. J'ai été, vous l'imaginez, très marqué par cet échange et sa confiance. Bien évidemment, nous avons évoqué l'hôpital Ruffy où il avait été interne et l'ambiance de cet hôpital. Jean Lauret m'avait dédicacé son livre portant sur le sujet et m'avait donné l'autorisation écrite de m'en inspirer car j'avais un projet d'ouvrage sur l'histoire de la médecine à Nîmes que je vous confie et j'ai toujours en tête. Je vous propose donc dans cette première émission d'évoquer l'histoire de cet hôpital. Au XIIe siècle, les institutions pieuses se multiplient à Nîmes. On remarque l'existence à Nîmes de plusieurs hôpitaux et hospices. Près de la porte d'Espagne, actuellement la porte de France, appelée aussi dans les anciens documents la porte couverte car elle conservait encore une partie des voûtes qui la recouvraient à l'époque romaine, se trouvait l'hôpital des pèlerins, hôpital Saint-Jacques. Les pèlerins quittaient Nîmes pour poursuivre leur voyage vers Saint-Jacques de Compostelle. En raison du nombre croissant de ces voyageurs, pèlerins envoient s'établir à proximité, dans les débuts du XIVe siècle, une hôtellerie, le logis de la coquille, destiné à héberger les pèlerins valides, les malades seuls étant désormais admis à l'hôpital Saint-Jacques. Dans le même secteur, c'est-à-dire à quelques distances de la ville, avait été établie la léproserie, dite aussi hôpital Saint-Lazare, où étaient admis les lépreux isolés ou en couple. Il y eut une abondante clientèle jusqu'au début du XVIIe siècle, époque où cette terrible maladie cessa d'être contagieuse en Europe, à part dans certaines régions comme l'Espagne, et disparut pratiquement en France, bien qu'il existe encore des lépreux en France. En 1313, il y avait aussi dans la même zone l'hôpital des Chevaliers, dont nous ne savons que très fort peu de choses et qui paraît avoir disparu au XIVe siècle et s'être confondu avec l'hôpital Ruffy ou Hôtel Dieu fondé en 1313. Par l'exacte donation qui leur était faite, on sait qu'il y avait donc à Nîmes au début du XIVe siècle 5 maisons de charité. L'hôpital Saint-Marc, la maison du chapitre de la cathédrale, près de la porte des Carmes, l'hôpital de Notre-Dame de Méjean, où des pauvres sur la place de la Trésorerie, aujourd'hui place de la Mairie, l'hôpital Saint-Jacques, ouvré aux pèlerins allant à Saint-Jacques en Galice, près de la porte des Garrigues, plus tard Saint-Antoine, l'hôpital Saint-Antoine, ouvré aux malades atteints du feu sacré, au mal des ardents, ou ergotisme, non loin du précédent, et l'hôpital des malades. Maladrerie, euphémisme pour désigner la léproserie, loin de la ville, au-delà de la maison de Ruffy, à l'extrémité de ce qui sera le quartier Saint-Antoine. Ces hôpitaux étaient avant tout des maisons d'hébergement destinées soit aux pèlerins, soit à certaines catégories de malades, soit aux gens sans ressources. Les ressources de ces hôpitaux provenaient essentiellement du revenu des terres qui leur avaient été attribuées par des actes de fondation qui garantissaient à l'origine les moyens d'existence de l'institution. Ces revenus s'étaient considérablement accrus au cours des temps par de nombreuses donations pieuses, faites surtout par testament. Dans le système économique du Moyen-Âge, où les revenus de la terre tenaient une place importante, la plupart de ces hôpitaux étaient des institutions riches, mais les installations étaient souvent sommaires et les locaux exigus. Cependant, il n'entrait pas dans l'esprit des administrateurs de ce temps d'accroître la capacité d'hébergement de l'institution, telle qu'elle avait été initialement établie. Lorsque les malades pauvres devenaient plus nombreux, ils s'entassaient comme ils pouvaient dans les divers hôpitaux existants, et un tel état de choses n'était pas rare, particulièrement en période d'épidémie. En 1313, l'année qui précède la mort et la fin du règne de Philippe le Bel, roi qui a parachevé l'œuvre des Capétiens et fait l'unité de la France au détriment du comté de Toulouse, les habitants de notre région perdirent leur indépendance, leurs coutumes et leur langue. Mais beaucoup gagnèrent en prospérité et richesse. Une période d'expansion économique se développe grâce à l'accès du royaume de France à la mer Méditerranée par le port d'Aigues-Mortes et les échanges entre la Provence, terre d'Empire, et Montpellier de l'Aragon. Une partie d'un commerce florissant va désormais traverser Nîmes pour emprunter la vallée du Rhône ou la voie Ré-Gordane, le nœud routier de Nîmes et le facteur d'une ère prospère. Un Nîmois du nom de Raymond Roux, ou écrit aussi Ruffi, R-U-2-F-I, dans les documents de cette époque, tous écrits en latin, faisait partie de la bourgeoisie, classe des marchands qui s'enrichit au détriment de la noblesse, et va accéder à la noblesse en recevant d'un baron ou d'un évêque la ceinture militaire ou les autres marques de chevalerie sans autorisation du prince. Ruffi va créer un nouvel hôpital, appelé à un brillant avenir, par testament du 22 mars 1313. Raymond Ruffi va léguer la maison qu'il possède dans l'enceinte des anciens murs de Nîmes, le rempart romain, près de la porte couverte, aujourd'hui la porte de France, et une grande partie de ses biens pour la fondation d'un hospice ou hôpital Dieu, Domus Dei à l'époque. Cet hôpital Dieu possédait 12 lits. Il lègue aussi un terrain et un moulin sur les bords du Vistre, que l'on appellera longtemps le moulin des malades, et aussi des revenus suffisants pour nourrir, vêtir et soigner une vingtaine de malades. Les lits étaient occupés par plusieurs malades, et aussi pour payer le salaire de deux femmes qui, par testament, devaient s'occuper d'eux. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, les hôpitaux avaient peu de lits. Là, nous voyons qu'avec l'hôpital qu'on va appeler l'hôpital Ruffi, il n'y avait que 12 lits. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait 12 malades. Il pouvait y avoir 2 ou 3 malades par lit. Il faut remarquer aussi, vous l'avez entendu, qu'il n'y avait pas de soignants en fait. C'était des femmes payées, bien souvent des femmes qui s'occupaient des malades, ou des sœurs de des congrégations de malades. Il faut se rendre à l'hospice de la Sainte-Baume pour voir ce que pouvait être un hôpital de la fin du Moyen-Âge, avec une chambre collective et des lits à tenture où les malades étaient placés l'un à côté de l'autre, bien souvent tête bêche. Donc le fait qu'il y ait 12 lits ne veut pas dire qu'il y avait 12 malades, il pouvait y avoir énormément de malades, et même on pouvait, si vous me permettez l'expression, mettre des malades ailleurs dans les couloirs, malheureusement comme on peut le voir actuellement aux urgences des hôpitaux. Donc l'ambiance d'un hôpital était plutôt une maison d'accueil plutôt qu'un hôpital au sens moderne. Je vous propose une trêve musicale avec une ballade rondo et vive et virelée, une musique du 14e et 15e siècle. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous évoquons aujourd'hui l'hôpital Ruffy de Nîmes avec les souvenirs du docteur Jean Lauret. Dès le XIVe siècle, chaque Français veut faire sur terre le salut de son âme. Il pratique sa religion, donne des aumônes, fait des pèlerinages, se regroupe en confrérie, construit des églises. Bien évidemment, Ruffy, qui habite Nîmes, n'échappe pas à la règle, à cette règle. Ruffy était vraisemblablement le descendant d'un des marchands italiens qui avait élu domicile à Nîmes au XIIIe siècle et qui s'était enrichi. Si l'on consulte la liste des consuls de Nîmes, on trouve des Ruffy pendant plus de 100 ans. La richesse va permettre à Ruffy de matérialiser sa piété. Des actes officiels mentionnent des fonds destinés à organiser des actions de grâce pour le salut de son âme à chaque anniversaire de sa mort dans l'église cathédrale dont il avait choisi le cimetière pour sépulture ainsi que dans les églises des trois ordres mendiants existants à Nîmes à cette époque, c'est-à-dire les frères mineurs, les frères prêcheurs, les frères du Mont Carmel. Il semble qu'il ait mis tous les atouts dans son jeu et ajoutant ce qui se faisait à l'époque, le vœu d'être enseveli en habit sacerdotal. C'est ainsi qu'il fut à sa mort reçu chanoine sous la règle de Saint-Augustin. C'est-à-dire que les gens à l'époque, au moment de mourir, devenaient en fait moines et pouvaient être, enfin, une certaine façon d'être moine et pouvait être enseveli avec des vêtements sacerdotaux. Pendant quelques années, l'héritier de Ruffy, peut-être Dupont, gérera lui-même et accueillit dans la maison près des remparts romains des malheureux de plus en plus nombreux, car la période prospère qu'a connue le XIIIe siècle va bientôt prendre fin. Dès 1317, des calamités climatiques s'abattirent sur notre région. Des années de sécheresse suivies de terribles inondations altérèrent les revenus agricoles et déclenchèrent la disette une année sur trois. Ces difficultés matérielles, la présence à Nîmes d'un ordre hospitalier, où les deux amenèrent l'héritier de Ruffy à confier l'administration de l'établissement au chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, connu aussi sous le vocable de l'ordre de Malte. Lorsque Philippe le Bel a arrêté les Templiers et saisi leurs biens, il conserve une partie de leurs fonds, mais donne certains immeubles qui ne présentent que peu d'intérêt aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, à l'ordre de Malte. C'est ainsi qu'aux environs de 1320, cet ordre s'installe à Nîmes, au sud de l'Esplanade. Les bâtiments s'agrandirent, une église fut construite et le quartier s'appelait dès lors le quartier Saint-Jean et l'hôpital Ruffy, l'hôpital des chevaliers, puisque c'est eux qui l'a géré. Nulle mention n'est faite de la présence de médecins dans l'hôpital. C'était à l'époque un hôpital sans médecins. Je vous rappelle qu'il y avait peu de médecins. La médecine était partagée en deux catégories de praticiens. Les médecins qui étaient docteurs, s'ils savaient, qui étaient en fait des intellectuels qui utilisaient la scolastique et qui recevaient rarement des gens en faisant des ordonnances de plusieurs pages et qui philosophaient sur la médecine, et les barbiers qui étaient réunis en corporation et qui n'avaient pas le droit de faire de la médecine, qui s'occupaient des plaies, de la chirurgie, de raser, de tout ce qui était coupé et qui travaillaient sous les indications et les prescriptions des médecins. On ne les appelait que rarement ces médecins dans les maisons de charité. Et si, comme plus tard, l'un d'eux y était affecté, il ne recevait aucune rétribution et ne figurait sur aucun registre. Il faut vous dire qu'à Nîmes, à l'époque, il y avait très peu de médecins. 4, 5, 6, peut-être 3. C'était une population très réduite. En 1329, les médecins de Nîmes, que les consuls avaient imposés, obtinrent du lieutenant du roi que les subsides versés leur soient restitués. En effet, d'après des lois romaines, consacré par l'usage, il bénéficiait de certaines exonérations parce que, disait-il, ceux qui pratiquent les arts libéraux et la médecine le font avec désintéressement et générosité, n'exigeant d'autre salaire que celui qui leur est assigné sur les fonds publics. Dans la période qui va suivre, on parlera souvent des faux médecins et des guérisseurs. Cette période que l'histoire appellera la guerre de Cent Ans débute avec la grande épidémie de la peste noire qui durera de 1348 à 1352, en 4 ans, qui va faire périr le tiers de la population de l'Europe. La guerre, les calamités climatiques, les pestes, le pillage font que la population de Nîmes, qui était de 800 feux en 1369, passe à 100 feux en 1464. La baisse de la démographie entraînait-elle une diminution de la clientèle hospitalière ou non ? Les pèlerins étaient-ils plus ou moins nombreux ? On ne le sait pas. La crise ruinait les riches et permettait aux paysans, pour la première fois de l'histoire, de manger du pain de froment. La guerre terminée et gagnée, la situation va s'améliorer. La renaissance des arts et des lettres s'accompagne de nouvelles humanismes, mais les épidémies de peste reviennent tous les 5 ans et 6 ans, plus ou moins sévères, suivies de la famine et ses conséquences directes. L'esprit nouveau ne se satisfait plus de marquer la maison atteinte d'une croix, de barrer les rues infectées d'une chaîne, de fermer la porte de la ville, d'enterrer les morts, de brûler les meubles, de faire bouillir le linge, de parfumer l'atmosphère de plantes aromatiques. On veut soigner les malades que l'on ne peut admettre dans les hôpitaux de la ville, d'où sont exclus les contagieux, les incurables et les fous. Saint-Vincent de Paul ne créera des maisons à leur usage qu'au XVIIe siècle. À Nîmes, seul le couvent des sœurs de Saint-Clair leur ouvrait ses portes, mais ils étaient bien insuffisants au moment de l'épidémie. Cette maison jouissait d'une telle réputation qu'elle fut la seule épargnée lors des troubles religieux. Les consuls pensèrent que l'hôpital des chevaliers pourrait remplir cette tâche et en informèrent l'ordre. Guillaume Dupont de Vézenobre, héritier de Ruffy, refusa énergiquement, disant que cette maison avait été fondée pour des pauvres atteints de maladies ordinaires et non pour des pestiférés. Un procès qui, de juridiction en juridiction, traîna plus de 10 ans, trouva une solution bien différente de celle recherchée. Le conseil de ville et le sieur Dupont décidèrent un jour d'arrêter la procédure et d'avoir le projet que la ville acheterait les bâtiments et les dépendances de la fondation Ruffy pour y regrouper tous les hôpitaux de la cité. La ville prenait en charge donc la maladie de ses habitants. On n'envisagerait plus de vouer cet hôpital aux pestiférés, mais tout en respectant la volonté de Ruffy, on se prémunirait contre les risques de contagion que les hospitalisés, souvent étrangers, faisaient courir aux Nîmois à l'intérieur de l'enceinte. En 1483, Dupont, du lieu dit de Vézenobre, vend à la ville de Nîmes l'hôpital fondé par Raymond Ruffy pour la somme de 75 livres. Il y vend les murs et les dépendances, ce qui est très important, car rappelons-le, les dépendances des hôpitaux les faisaient vivre. Un hôpital était structuré de sa maison qui abritait les patients et les gens qui s'en occupaient, mais aussi de toutes les dépendances agricoles et autres, les animaux, pour venir aux subsides, pour nourrir les malades et pour apporter assez d'argent pour pouvoir faire que le tout puisse vivre. Donc, Dupont du lieu de Vézenobre vendit l'hôpital fondé par Raymond de Ruffy à la ville à la condition que sa vocation d'y accueillir des pauvres malades y soit respectée à perpétuité. On décida d'appeler cette maison Hôtel-Dieu, tant était grande la réputation de l'Hôtel-Dieu de Paris. L'Hôtel-Dieu de Paris est un hôpital de la capitale, évidemment, en province, on voulait bénéficier de l'aura de cet hôpital national. Tous les hôpitaux situés à l'intérieur des remparts furent achetés par la ville et leurs bâtiments revendus, leur mobilier fut transporté à l'hôpital Ruffy et donc la ville ne possédait plus que, si vous me permettez l'expression, un centre hospitalier communal. La prise en main par la ville de l'Hôtel-Dieu marque une date importante dans l'histoire des hôpitaux de Nîmes. Le soin des malades pauvres n'est plus laissé à la seule charité privée sous le contrôle de l'Église, car à l'époque aussi les donations privées permettaient aux hôpitaux de pouvoir vivre. Les consuls prennent conscience de leur responsabilité dans le domaine de ce que nous appellerions aujourd'hui l'assistance. Et l'hôpital Ruffy devient l'hôpital de Nîmes, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu de Nîmes. J'ai l'habitude de finir mes émissions sur une note de biographie. Aujourd'hui, bien évidemment, je vous conseille le livre que vous pouvez trouver à la bibliothèque du Carré d'Art, l'Hôpital Ruffi de Nîmes, de 1313 à 1934, du docteur Jean Lauré, qui est écrivain, urologue. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous rappelle que vous pouvez prendre votre adhésion à notre radio, Radio Alliance Plus, pour que l'on puisse vivre et pouvoir progresser et toujours vous distraire et vous faire apprendre. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.